parle d'instinct, d'intuition, bien sûr, mais je n'accorde pas beaucoup de foi à tout ça. Peut-être que vous devriez. Il y a un paquet de choses que je devrais faire, et me fier à mon intuition est quelque part en bas de la liste. Je l'ai déjà fait et ça m'a valu des ennuis. Je pensais à vous hier, Franck. Ok, nous y venons. Je savais que ça allait arriver. Franck, écoutez-moi, plaisanterie mise à part. L'humour a des vertus très thérapeutiques, non? Je me disais que vous deviez apprendre à avoir confiance en vous. Quoi? Peut-être à réapprendre. Peut-être qu'il ne s'agit pas d'apprendre, mais de réapprendre. Ça arrive à beaucoup de gens qui ont vécu un divorce, qui ont eu des difficultés avec leurs enfants. Toutes les choses importantes de la vie, vous savez. Ces choses commencent à aller de travers, ou elles ne se passent pas comme prévu, et les gens peuvent douter de leur capacité à prendre les bonnes décisions. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez savoir ce qui s'est passé samedi? Samedi? Bien sûr. Dites-moi ce qui s'est passé samedi. J'ai rencontré quelqu'un dans un bar, un vieux de la vieille, un type qui connaissait mon père. Vous savez ce que je lui ai dit? Quoi? La vérité. Voilà ce que je lui ai dit. Comment était réellement mon père, le genre de connard qu'il était vraiment. Et qu'a dit cette personne? Il a dit que je ferais peut-être bien de ne pas boire autant, et il a refusé de me payer un coup. Il n'a pas eu l'air de trouver ce que je lui disais trop intéressant. Et qu'avez-vous ressenti en disant ces choses? Je ne me souviens pas. J'étais saoul. La chose la plus dure à affronter est la vérité, Franck. Je suis sûr que beaucoup de gens considéraient votre père comme un modèle, comme le bon flic par excellence. Et ils n'aiment pas qu'on leur enlève cet idéal. Sa vie entière a été un mensonge. Je le sais, Franck, mais je peux imaginer qu'il y ait des gens qui ne veulent pas vous entendre dire ça. Certains parce qu'ils étaient aussi mouillés que lui, d'autres parce qu'ils ne veulent pas perdre leurs idéaux. Mais je peux vous dire tout ce qui me chante, et ça ne sortira jamais de cette pièce, exact? C'est exact, oui. Et je trouve que c'est un bon signe que vous ayez dit ça à cette personne.
Pourquoi?
Parce que ça signifie que vous êtes désormais disposé à affronter une partie de la vérité concernant votre père. J'ai toujours connu la vérité à son sujet, toujours su qui il était vraiment. Bien sûr, mais vous n'avez jamais rien dit. Vous deviez le défendre. Le défendre? Je ne crois pas. C'était plutôt que j'avais honte de lui. Je vois. Alors de quoi voulez-vous que je parle aujourd'hui? Vous aviez parlé de la Lufthansa, vous vous souvenez, et de l'implication de votre père dans cette affaire. Mais ce n'est pas une obligation. Nous pouvons parler de ce que vous voulez. Je veux en parler. Mais je suis préoccupé par cette affaire. Ok. Commencez par ça. Je veux simplement dire deux ou trois choses à haute voix. Juste moi qui parle et vous qui écoutez. C'est tout. Ok? Que voulez-vous dire? Cette affaire sur laquelle j'enquête. La fille qui a été étranglée. Je me suis rendu à son lycée pour questionner certains de ses amis. Et un type me parle d'une fille à Waterbury qui a été retrouvée étranglée à Noël dernier. J'y vais et je rencontre la principale et j'obtiens des infos sur la fille morte. Je vais voir ses parents et je découvre que la fille qui est morte à Noël dernier était elle aussi adoptée, qu'elle était elle aussi passée par les services pour l'enfance. Et Dieu sait pourquoi, je n'arrive pas à m'ôter ça de la tête. Vous croyez qu'il y a un lien? Peut-être, mais je ne crois pas, non. Je perçois une certaine hésitation, Franck. Eh bien, la première fille, la sœur du junkie, elle avait les cheveux coupés courts et les ongles couverts de vernis coloré. Et cette fille de Waterbury, elle portait des vêtements que, selon sa mère, elle n'aurait jamais portés. Je vois. Et il y a autre chose? Eh bien, j'ai commencé à m'intéresser à d'autres filles disparues, vous voyez. J'ai fait des recherches et passé en revue toutes les disparitions et tous les homicides dans une certaine tranche d'âge. Et j'ai découvert cinq autres filles, deux meurtres et trois fugues apparentes. Et elles sont aussi passées par les services pour l'enfance? Pas sûr. Je n'ai pas encore vérifié. Mais vous allez le faire. Oui. Et ce sont toutes d'anciennes affaires que vous n'avez pas résolues. Non, non, ce ne sont pas mes affaires. Elles ne l'ont jamais été, ne le sont toujours pas. Ça ne risque pas de vous causer des problèmes avec vos collègues? S'ils l'apprennent, si. Mais vous n'allez pas leur dire. La seule personne à qui j'en parle, c'est vous. Eh bien, Franck, je ne sais pas quoi dire. Je suis thérapeute, pas inspectrice. Mais vu les circonstances, je crois que ce serait peut-être une bonne idée d'informer les agents chargés des enquêtes initiales que vous reprenez leurs affaires. Je ne reprends pas leurs affaires. Alors, comment appelleriez-vous ça? J'accomplis mon devoir. Sérieusement, Frank, vous ne pouvez pas oublier la situation dans laquelle vous vous trouvez. Vous avez un équipier mort. Votre permis de conduire a été suspendu. Vous êtes obligé de venir me voir chaque jour jusqu'à nouvel ordre. Et vous avez une retenue d'un tiers sur votre salaire jusqu'à la fin de l'année. Une bonne chose que j'ai droit au psy gratis, pas vrai? Frank, je ne vois pas comment vous pouvez vous permettre d'être aussi facétieux. Écoutez, Marie, si je les préviens, ça devient officiel. Ces vieilles affaires deviennent une charge de travail supplémentaire. Si je n'aboutis à rien, je me retrouve avec cinq affaires non résolues de plus sur ma liste. Et ça ne fait pas bon effet. Mais si je ne dis rien et que ça ne mène nulle part, alors pas de problème. Personne n'est perdant. J'évite que les autres m'en veuillent. Et si vous résolvez les affaires? Eh bien, on peut espérer que mes collègues inspecteurs sont assez grands pour reconnaître qu'une affaire résolue est beaucoup plus importante que le nom de la personne qui l'a résolue. J'imagine que c'est ce que penseront vos supérieurs, mais je ne suis pas du tout certaine que vos collègues seront de cet avis. On verra. La seule chose qui compte pour le moment, c'est de savoir si ces affaires mènent quelque part, s'il y a un lien entre elles. Et vous espérez qu'il y en ait un. Bien sûr que je l'espère. Afin d'obtenir des éloges. Non! Pour l'amour de Dieu, vous croyez que c'est de ça qu'il s'agit? Je ne sais pas de quoi il s'agit, Franck. C'est pourquoi je vous pose la question. Il s'agit de mon boulot. C'est pour ça que je suis dans la police. Parce qu'il y a très peu de choses plus importantes que de mettre les gens qui font ce genre de saloperie hors d'état de nuire. C'est ce que vous croyez. Bien sûr. Pas vous. Nous ne parlons pas de moi. Bien sûr que je le crois. Sinon, je ne ferais pas ce boulot. J'aurais déjà démissionné, surtout après toutes les emmerdes que j'ai eues récemment. Comme quoi, tout. Tout. Mon équipier. Toutes ces galères des 6 derniers mois. Est-ce que ça vous met en colère? Je n'éprouve pas de colère, non. De l'incrédulité, peut-être. De l'incrédulité. Est-ce que tout le monde éprouve quand... Comme quoi? Quand quelque chose se produit, quelque chose comme ça, on y repense tout le temps. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Comment les choses auraient-elles pu finir autrement? On les retourne encore et encore dans son esprit. Vous a-t-on fait sentir que vous étiez responsable de ce qui était arrivé à votre équipier? Bien sûr. Enfin, non. Pas comme ça. Pas directement. J'étais responsable. Nous l'étions tous les deux. Mais c'est comme ça. C'est le boulot qui veut ça. Mais ces gens qui évaluent les responsabilités dans de telles situations appartiennent eux-mêmes à la police. Ils se sont eux aussi trouvés dans la ligne de feu. Bien sûr, je sais. Mais tant que vous n'y êtes pas, tant que vous n'êtes pas au cœur des événements, vous ne pouvez pas juger. Chaque situation est différente, et personne n'est équipé pour prendre les décisions qui doivent être prises dans ce genre de situation. Donc vous faites ce qui vous paraît approprié sur le coup. Exact. Puis vous y repensez. Et vous vous repentez quand vous avez le temps, après les faits. Regrettez-vous d'avoir décidé de le laisser seul? Comment pourrais-je? Je n'avais pas le choix, si? J'ai beau analyser les choses sous tous les angles, je ne vois pas comment l'issue aurait pu être différente. Ça ne change rien au fait que j'y penserai pour le restant de mes jours. Mais je suis certain de deux choses. Premièrement, grâce à ce que nous avons fait, 2 personnes sont mortes et 34 sont en vie. Et deuxièmement, la chose la plus importante en ce qui me concerne, c'est que si les positions avaient été inversées, il aurait fait la même chose que moi. En êtes-vous sûr? Absolument. Voulez-vous me dire ce qui s'est passé ce jour-là? Non. Parce que nous devons toujours aborder la question de la Lufthansa. Nous parlons de mon père, et tant que je n'aurai pas fini avec lui, je ne veux pas vraiment parler d'autre chose. Ok. Alors, parlez-moi de lui. Je ne peux pas, je suis vraiment désolé, mais je dois retrouver Jimmy Radic. Et nous avons un briefing collectif à 10 h. Alors demain? Ouais, demain. Une question avant que vous partiez. Allez-y. Combien avez-vous bu pendant le week-end? Oh, je ne sais pas. Probablement juste assez pour m'aider à tenir le coup jusqu'à aujourd'hui. Chapitre 24. Parrish décrocha le téléphone. Il voulait s'assurer que l'examen toxicologique de Rebecca serait effectué avant qu'elle soit recousue et expédiée pour de bon dans l'autre monde. Jimmy Radic semblait agité, et dès que Frank raccrocha, il l'informa que Valderas avait posé des questions. Comme quoi? Radic haussa les épaules. Les conneries habituelles, vous savez. Combien d'affaires en cours? Comment va Frank? Sur quoi vous travaillez? Quand commencerons-nous à éclaircir certaines de ces affaires? Les trucs que disent tous les sergents de brigade. Et qu'est-ce que vous lui avez répondu? Je ne me suis pas mouillé.